Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre soirée football sur RTL avec un refait le match musclé comme les ischios de David Aiello peut-être.
Ah oui, quand même.
Ouais, quand
ils sont plus solides que ceux de Neymar. C'est pas dur, vous allez
me dire. C'est vrai. Et cette question clé, pourquoi le foot français est-il à la ramasse? Mis à part la prestation du Paris Saint-Germain, les matchs européens des autres clubs français sont un cauchemar. Nous tenterons de trouver une explication. Demain se joue le classico Paris Saint-Germain-Marseille. Les Marseillais ont-ils une chance de ne pas sombrer au Parc des Princes et le classico a-t-il la même salle? Les statistiques peuvent inquiéter l'OM, mais un match reste un match. Nous sommes ce soir avec Cindy Colmenares. Bonsoir.
Bonjour.
Cindy.
Bonjour, famille de la famille.
Baptiste Després du Figaro, bonsoir Baptiste.
Bonsoir Denis, bonsoir tout le monde.
David Aiello, donc de Yahoo Sport.
Bonsoir mon cher Denis, vous êtes d'humeur philosophique ce soir, donc un match reste un match.
Je donne d'humeur tout, moi je suis très bien. Jean-Philippe Goran, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Comment
bonsoir.
Allez-vous?
Très bien, très très bien.
Bon, eh bien écoutez, nous allons développer tout ça en sachant que Lille reçoit Bordeaux. Nous rejoindrons Hervé Veuc tout à l'heure, Lille qui mène 1-0. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match. Suivez.
Service et appel gratuit. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Baptiste Després du Figaro et Jean-Philippe Goron, journaliste formateur à l'ESJ Lille.
Très bien, vous l'avez bien descendu.
C'est vrai, hein, c'est
assez gentil, c'est bien.
Et on salue d'ailleurs tous les...
Absolument, les jeunes journalistes qui aspirent à prendre notre place un jour, ce qui est légitime aussi.
Oui, enfin pas trop
pas
tôt.
Pas tout de suite,
mais un peu.
Laissez-nous un petit peu. Nous laisser encore 20 ans.
Ouais. 20 ans?
Bah, pour moi, oui, pas pour vous.
Oui, moi, ça serait un peu avant. Je vous remercie d'ailleurs de me l'avoir rappelé. Merci beaucoup, David. Vous pouvez y aller. Hervé Veug, Lille, Bordeaux. Première période 1-0 pour les Lillois. Un match tonique, des Lillois.
Oui, bonsoir à tous d'abord. Et puis effectivement, enfin, match tonique, un bon match des Lillois. Je cherche encore les Bordelais. Hein. Je ne sais pas s'ils sont rentrés sur le terrain, s'ils sont restés au vestiaire. Pas un tir bordelais en 45 minutes, mais des Lillois qui sont effectivement bien dans leur match. Pas beaucoup d'occasions quand même. Hein. Il y a eu ce but de Benjamin André marqué à la 21e minute. Il y a une deuxième belle frappe de Benjamin André. Pour le reste, il y a eu une pression sur le but de Costil, mais pas d'énormes occasions. Mais Lille est bien dans sa tête et bien dans ses jambes. On va voir si les Bordelais réagissent. Ils sont menés 1-0 après 1 minute 14 de jeu en seconde période.
Merci Hervé Veug, évidemment. Nous sommes avec vous jusqu'à la fin de cette rencontre de Ligue 1. On va quand même rappeler que le vainqueur, si vainqueur il y a, aura 18 points et sera donc troisième du championnat et donc sur le podium. Nous allons donc parler de ces clubs français qui ont été à la ramasse cette semaine en Coupe d'Europe. Ça donne envie de pleurer un petit peu. Pas forcément sur le contenu, même si on reste sur... On va décortiquer un match par match, mais club par club, plus exactement. Mais généralement, est-ce qu'on peut dire encore une fois que c'est le championnat, la faiblesse du championnat qui est retranscrite par ces contre-performances? David Aiello, Yahoo Sport.
Bah oui, enfin moi c'est quelque chose que je martèle depuis des années, et notamment cette antenne. Je pense que il faut arrêter de se leurrer. Il faudrait peut-être que les dirigeants du football français ouvrent enfin les yeux. On le dit, on le répète, on entend souvent cette expression, les cinq grands championnats. Il faut arrêter, c'est un leurre. Je veux dire, ça nous maintient dans l'illusion parce que la France a été championne du monde. Évidemment que le football français, que l'équipe nationale est capable de hisser son niveau de performance et d'être très très grands joueurs au niveau international, mais quand on regarde individuellement les clubs, c'est catastrophique. Il faut savoir quand même que si on prend sur les 10 dernières années, les clubs portugais, les clubs russes, les clubs ukrainiens ont remporté la Ligue Europa, ce qu'aucun club français n'est parvenu à faire. Quand on regarde l'indice UEFA, vous avez le Paris Saint-Germain qui est 7e, ensuite ça chute à la 19e place pour Lyon, puis le Monaco 32e, puis derrière c'est le néant. Donc voilà, il faut remettre les choses à leur place, peut-être ouvrir enfin les yeux et arrêter de se voiler la face.
Jean-Philippe.
Alors, on a souvent coutume de dire que, pour parler des clubs français en Coupe d'Europe, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, les finances différentes. Ok. Moi, il y a quand même quelque chose qui me...
Enfin, les finances, ça, c'est pas ce qui permet aux Portugais de remporter des ligues
européennes. Oui, mais les Portugais, ils ont un truc en plus, c'est là où je veux en venir, et je te remercie de me tendre la perche, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a moins, nous, que les autres, c'est l'état d'esprit.
Ah, merci.
Voilà. C'est-à-dire que, on va en reparler tout à l'heure de Saint-Etienne, mais... J'avais vraiment les boules cette semaine en regardant Saint-Etienne, parce que, petite parenthèse, Alexandria, c'est quand même pas un ténor du gratin européen.
On reviendra avec
et
club
on s'est
club,
ennuyé. Donc, non, mais juste pour prendre cet exemple-là, si on n'a pas l'état d'esprit, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc, oui, tout ne se vaut pas au niveau européen, mais les autres pays, il y a des pays qui n'ont pas beaucoup plus d'argent que nous, que les clubs français, et qui se battent, et qui font quelque chose.
C'est Cindy Colmenares.
Moi, déjà, d'un point de vue footballistique, il faut aussi rappeler qu'au niveau des buts, quand on regarde la Ligue 1, il n'y a pas énormément de buts. Et ça, il est très bien s'il y avait au moins des passes réussies, que les joueurs n'étaient pas systématiquement en train de faire des tirs sans les cadrer. En fait, là, quand on voit un match, on voit surtout que ça arrose les gradins. Il y a très peu des passes comme ça qui sont réussies. Il y a ça, mais il y a aussi l'attractivité de la Ligue 1. Quand on voit, par exemple, l'équipe de France, on se rend compte que cette équipe qui est championne du monde, les joueurs, si on se pose la question, ils jouent où ces joueurs? Ils jouent à l'étranger. On a du mal à les garder. Donc moi, je pense que c'est aussi un souci d'attractivité. Et pourquoi? Parce qu'il y a bien une cause par laquelle les joueurs ne veulent pas rester ici. Eh bien, c'est très simple. Quand on regarde, par exemple, la toute récente sortie des Mandanda, qui dit qu'il va affronter ses classicos et qu'il fera face à Mbappé, qui est le meilleur joueur et un champion du monde, comme il est lui aussi à Lille, juste au titre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on s'est dit que quelque part, il manque de cette grinta, de cette combativité que les joueurs devraient avoir. Et de l'autre côté, on voit un Mbappé qui te sort, qu'il est là, qu'il veut garder sa place, qu'il te montre de l'ambition. Et qu'est-ce qui se passe? Polémique en France, ça va pas, il n'est pas humble. Et donc ça, on le voit surtout ici, et c'est pour ça aussi que les joueurs, ils veulent partir, parce qu'il n'y en a pas assez d'ambition, et l'ambition semble être un tabou en France, en fait.
Baptiste Després,
je rejoins un peu ce qui se dit autour de la table, parce qu'en fait, à la Rama, je suis peut-être pas trop d'accord avec votre expression, Denis, c'est plutôt, est-ce qu'on n'est pas finalement à notre place? Parce que, non, mais c'est vrai, aujourd'hui, on gagne, combien de Coupes d'Europe le club français a gagné dans toute son histoire?
Deux.
Combien? Deux? Non, mais deux Coupes d'Europe,
à la Rama, c'était faisant référence au résultat
de la semaine, bien entendu, de la semaine bien entendu. Depuis mais je suis d'accord avec David sur le côté, c'est peut-être une erreur de la part des dirigeants, une erreur de la part des médias aussi, dans la communication, dans la façon de croire ou peut-être des fois de survendre des choses. Aujourd'hui, les clubs français, en dehors du Paris Saint-Germain, on va rentrer dans les détails après, mais que ce soit Lyon, que ce soit Lille, que ce soit Saint-Etienne ou Rennes, ils sont à leur place parce que regardez le début de saison qu'ils font. Et ce sont des clubs qui n'arrivent jamais d'un été à un autre à garder leurs meilleurs joueurs. Vous pouvez dire n'importe quoi, par exemple sur Lyon avec l'attractivité, etc., ce que vous voulez. Ils ont perdu Fekir, ils ont perdu Ndombele.
On va y venir.
On va en reparler, mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'attractivité, je vais y revenir, c'est compliqué pour les clubs.
Alors justement, on va revenir à ça avec Lille. On va commencer par Lille. Lille qui joue en ce moment en Ligue 1 contre Bordeaux 1-0 pour les Lillois, qui a joué un de ses meilleurs matchs de la vie de tout le monde contre Valence. C'était un match nul finalement. Lille qui a un point dans ce groupe. Devant, il y a Valence 4 points, Ajax et Chelsea 6 points. Donc c'est quasiment terminé pour. Enfin, quasiment. C'est pas de manière comptable, enfin,
oui,
c'est mal barré.
Il faut aller gagner à Valence la prochaine fois, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'on peut penser du parcours
Lille,
de Lille,
sur Lille par exemple, le match de cette semaine, globalement, il n'est pas vraiment critiquable. C'est-à-dire que c'est un match que tu dois gagner sur ce que tu fais.
Ouais, et c'est un match que les clubs français ont dû gagner.
Et c'est un match que tu es finalement très près de perdre. Bon. Mais au niveau de l'état d'esprit, pour revenir à ce que je disais, je peux passer une heure à répéter la même chose, mais là, ils ont été là, les Lillois. Ils ont été là, ce qui n'a pas été le cas d'autres clubs français dont on parlera. Après, le problème de Lille, il est différent. C'est-à-dire qu'ils se sont reposés en début de saison, et Galtier l'a bien expliqué, sur une cause extérieure qui est le départ de Pépé. Je suis désolé, il y a des joueurs qui, depuis le début de l'année, se cachent derrière ça à Lille. Je cite Bamba, je cite Ikoné, qui, comme par hasard, s'est un peu réveillé contre Valence, comme quoi il avait été piqué par son entraîneur. Ces joueurs-là, il faut aussi qu'ils assument leur statut, et en équipe de France, et en club.
Et ça, je suis d'accord. Après, c'est une question aussi de digestion. Hein. Ikoné, qui est acclamé au Stade de France, qui rentre, qui marque un but. C'est difficile après, derrière, quand vous allez dans votre club, que vous enchaînez avec la Ligue des Champions, etc. Je suis d'accord avec Jean-Philippe là-dessus. Pour moi, Lille, c'est pas les pires à ce niveau-là, parce qu'ils font quand même.
En plus, ils ont un groupe difficile.
Ils ont un groupe difficile. Avant le début de saison, Ligue des Champions, si on avait des Lille, peut être encore en course pour la troisième place. Honnêtement, on aurait quasiment tous signé autour de la table. D'être dans les deux premiers, pourquoi pas, mais ils sont encore en course pour la Ligue Europa, c'est pas les plus à blâmer.
Alors il y a quelque chose que Cindy a dit, a effleuré plutôt, et qui paraît intéressant, c'est quand un joueur, se vante, mais dit voilà, moi je suis gonflé à bloc, machin, etc., il paraît ambitieux, et on a l'impression qu'il y a un mélange, entre une mauvaise interprétation entre l'ambition et le fait d'avoir la grosse tête. David Ayello, Yahoo Sport.
Oui, il y a de ça. Après, du coup,
parce qu'on parle d'état d'esprit. Oui,
mais justement, je pense que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Philippe sur le fait que le nerf de la guerre, quelque part, c'est cet état d'esprit. Moi, je reviens donc encore plus loin, c'est la formation. Je pense qu'on a un véritable problème sur la formation au niveau mental, au niveau de l'état d'esprit. Moi, j'ai souvent entendu dire, et j'ai vu souvent des tournois de jeunes où il y avait des jeunes équipes françaises, ce dont se plaignaient systématiquement les formateurs des grands clubs, c'était l'état d'esprit des jeunes joueurs français, enfin ceux qui sont formés en France. Alors évidemment, ce qu'on voit et ce qu'on avait vu en 98 et qu'on a vu en 2018, c'est que
tous les joueurs qui ont formé les équipes de France qui ont été champions du monde, c'est des joueurs qui sont passés par l'étranger et pour certains même très jeunes. Je pense à Griezmann évidemment qui a fait toute sa formation en Espagne. Donc il y a ce voilà, on voit bien que techniquement on sait faire les choses, ça, physiquement aussi.
Ça c'est vieux. Hein.
Bah, oui, mais c'est, en 2018 mais ça, c'est toujours
ça,
le cas.
Non, mais tout à fait. C'est vieux dans le sens où quand on voyait des joueurs français se plaindre un petit peu du traitement qu'ils avaient en France, quand ils étaient à l'étranger, ils mouffetaient pas.
Mais c'est pas ça. C'est que ça va au-delà de l'état d'esprit. Il y a aussi pour vous mettre un exemple d'une autre situation. Lorsqu'ils partent à l'étranger, ils sont contents. Mais ils sont contents pourquoi? Parce qu'ils voient aussi un niveau au niveau de l'entraînement, au niveau des idées, de l'exigence, des choses qui sont mises en place. Qu'est-ce qui se passe en France? Quand on regarde la Ligue 1, on voit que la plupart des entraîneurs sont français. J'ai absolument rien contre les Français. Au contraire, c'est tant mieux. On a du talent en France. On le voit reflété dans les entraîneurs et dans les joueurs. Mais lorsqu'il y a des bons entraîneurs qui arrivent de l'étranger, qu'est-ce qu'on constate? Là, ils commencent à avoir des soucis. Plutôt que de se dire, tiens, il va pouvoir amener des nouvelles idées, des choses plus innovantes, on s'est dit, ah, on ne comprend pas l'accent, la façon de parler, la compréhension. On commence à casser. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin, bah, le niveau est là. Et il faut savoir que le football, de toute façon, c'est le reflet de la société. Donc, tout ce qui est en train de se voir là, sur les terrains, ce qu'on voit dans cette Ligue 1, qui ne donne pas envie, en tout cas aux étrangers, de la regarder, bah, c'est ce qui se passe en France.
Alors, on va se recentrer sur Lille et on va demander à Hervé Veugue, hein, qui suit évidemment les clubs du Nord depuis je ne sais plus quand.
Belle lurette. 26 ans.
Voilà, 26 ans. Hervé Veugue, donc votre analyse sur le loss de cette saison et ses prestations en Ligue des Champions.
Bah, je pense qu'ils ont été très timides parce que la plupart ne connaissaient même pas la Ligue des Champions et n'avaient jamais joué de Coupe d'Europe. Même lors du match à Amsterdam, ils ont cumulé les erreurs. Ça a été mieux ici contre Chelsea, mais il y a quand même des fêtes. Là, ils ont fait leur match abouti parce que d'abord, il y avait un changement de système. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas été titulaires. On pense à Bamba et Ikoné. Et il a fait jouer d'autres joueurs. Galtier a dit, de toute façon, à partir de maintenant, je ne ferai plus à peu près par rapport à une équipe type. Mais tout le monde aura vraiment, vraiment sa chance. Et puis, il y a un phénomène quand même pour avoir bien connu le Pépé. Pépé, l'année passée, allez, il était payé aux alentours de 130-140 000 euros par mois. 400 000 à Arsenal. Aucun club français, à part le Paris Saint-Germain, n'est capable d'avoir une dizaine de salaires et donc d'être attractif en France. Ça n'existe pas. Et certainement pas à Lille. Sinon, vous mettez en danger le club si jamais il n'y a pas une vraie performance avec la Ligue des Champions tous les ans.
On se retrouve dans quelques instants avec Hervé Veugue, Lille-Bordeaux, Lille qui mène toujours 1-0. Jean-Philippe Gant, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, c'est toujours pareil. On parlait avec Hervé de Lille. Regardez la réaction qu'a eu Jonathan Ikoné quand il a marqué son but. Il a mis ses doigts dans les oreilles pour dire aux plics, fermez-la parce que... Mais t'as envie de dire non? Mais non, mon gars, t'as encore tout à prouver, même si t'es en équipe de France.
Moi, j'adore.
Même si t'as marqué en... Et c'est un joueur talentueux. Il a marqué un but merveilleux contre Valence. Mais tais-toi, joue! C'est pas un but de temps en temps.
Alors,
qu'on attend.
Elle adore. Vous
moi,
adorez quoi,
j'adore
le but
cette
ou...
provocation. Mais enfin, en tant que Sud-Américaine, on est habitué à voir des joueurs sur les terrains faire ça. Alors, je serais pas d'accord si après il fait un mauvais match. Mais là, en l'occurrence, il a fait un bon match.
Oui, mais c'est pas un match qui sert. Il faut ces deux matchs, c'est
on
cinq matchs,
c'est
10 matchs.
On est d'accord, mais c'est ça aussi qu'entretien. En fait, il nous reste pas grand-chose en Ligue 1. Donc, au moins, essayons d'entretenir au moins une sorte d'émotion, je sais pas, des suspens. Déjà, les suspens, il y est. Il y est en Ligue 1 parce que quand on voit que Lyon il peut soit être relégué
oui, mais le suspense pour le titre il est mort depuis un petit moment. On se retrouve dans quelques instants avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Baptiste Després du Figaro, Jean-Philippe Gouraud, journaliste formateur à l'USJ Lille, dans quelques instants sur RTL. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
Petite grignotée. Denis Balbière sur RTL.
On refait le match.
Hervé Veugue, ça bouge à Lille, Lille-Bordeaux.
Oui, avec une faute de Koscielny sur Benjamin André. Alors celui-là, on pourra en reparler toute la saison, je l'espère pour lui. Parce que franchement, s'il y a un mec dans une équipe de foot sur lequel vous pouvez compter, c'est Benjamin André. Il vous marque le premier but. Là, il fait un slalom après une passe du Turc Uzunicic et il tombe. Enfin, il se laisse pas tomber. Hein. Il y a vraiment pénalty, il n'y a pas eu de contestation du côté de l'équipe girondine. Alors ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est Uzunicic qui n'a pas encore marqué un but. Le Turc qui est arrivé, qui a été sifflé à sa sortie contre Valence, qui avait fait un match correct, qui va tirer le pénalty. Il est gaucher certes, mais la VAR, oui, il y a la VAR. Bon, peut-être qu'on peut revenir Denis parce qu'il y a la VAR là, traditionnellement.
bah, on revient dans 10 minutes.
Ouais, c'est à peu près ça. Ouais.
Oh, ou alors à 19h30, vous nous direz.
Ouais, hein, ouais, c'est ça.
Allez, on fait notre tour de table. On a tout dit sur Lille, sur la Ligue des Champions de Lille, parce que bon, c'est vrai, groupe difficile.
Ils sont derniers,
ouais, ils ont un point.
Mais ils sont pas morts. Ils sont pas morts encore.
Au niveau comptable, c'est pas mort comme vous le dites.
Non, mais ils ont envie quand même.
Et j'ai envie de parler d'état d'esprit. Ils ont quand même sur le dernier match, ils ont eu cet état d'esprit-là. Alors, il n'y a pas la gagne, mais bon, c'est encore.
Non, mais on est plus indulgent avec une équipe comme ça, comme Lille ici.
Alors là, si vous parlez d'indulgence, à mon avis, ça va y aller. La Serbe va tomber sur Lyon. Lyon battu à Benfica 2-1. Leipzig qui compte 6 points. Le Zénith 4 points. Lyon 4 points. Point Benfica 3 points. Là, au niveau comptable, tout est jouable. Hein. David Ayello, Yahoo Sport.
Oui, c'est relancé, mais si on prend ce match, alors bon, déjà, ça a été dit, mais je pense qu'il faut le souligner. Il faut pas blâmer Anthony Lopez, même s'il est coupable.
Oui. Allez-y, Hervé. Ah, ouais.
Ça a duré 2 minutes. Bon, ça va, comme d'hab.
Ils sont rapides.
Il faut voir au moins 10 images différentes. Est-ce que Lille va doubler la mise et se mettre à l'abri? C'est possible.
Pourtant, c'est flagrant, là.
Oh oui, ça c'est flagrant, mais il a voulu simplement avoir.
Oui, on sait jamais.
Être sûr du truc.
Petit coup de fil à la grand-mère ou au cousin.
Alors, on va faire reculer le ballon de 3,5 cm parce qu'il n'est pas au milieu du point. Voilà, monsieur Delageau, qui n'a pas été très bon aujourd'hui. Mais enfin bon, sur ce pénalty, il n'y a rien à dire. Et Zice, c'est au fond. Et Lille qui mène 2-0 grâce à son Turc qui ouvre enfin son compteur de but ici à Lille.
Merci Hervé Veug, Lille qui mène contre Bordeaux 2-0 qui se reprend bien dans ce championnat. Nous revenons donc à Lyon. Défaite Benfica, David Ayello, vous disiez Yahoo Sport 2-1. Défaite un petit peu, bon, c'est vrai qu'Anthony Lopez, on ne va pas le blâmer.
Non, voilà, on ne va pas le blâmer parce que c'est un joueur qui est souvent exemplaire et qui a sauvé son équipe très souvent. Après, moi je suis obligé de revenir sur l'état d'esprit de Lyon parce que moi la première période de Lyon, je l'ai trouvé extrêmement décevante justement dans l'état d'esprit. C'était pas du tout au niveau attendu sur ce genre de match. Il y avait très peu de courses, très peu de courses intenses, très peu de pressing. Ils étaient en vacances. Et effectivement, en seconde période, c'était un petit peu plus satisfaisant, sans doute que Rudy Garcia a remonté quelques bretelles. Mais on peut pas commencer un match à la 45e minute en Ligue des Champions. Alors ça aurait pu en plus bien se terminer pour eux parce qu'un partout jusqu'à l'erreur de Lopez, je pense qu'ils étaient sur le point de faire craquer la défense portugaise. Voilà, il y a eu cette erreur derrière, mais j'en reviens quand même à ce point central, on ne peut pas jouer 45 minutes en Ligue des Champions.
Alors, ce qui est quand même assez fascinant quand même dans ce qu'on vit avec l'Olympique Lyonnais depuis environ 2 ans, c'est qu'en fait, donc si je reprends bien le film depuis le départ, Genesio s'est fait taper dessus. Déjà au moment où Genesio était l'entraîneur, on disait autour de cette table, comme tout le monde d'ailleurs, avant Telo Tiède, on disait voilà, les Lyonnais ne sont pas capables de faire un match plein, les Lyonnais, les attaquants ne défendent pas, ils ne se replacent pas, bon. On a changé d'entraîneur, on est passé avec le phénoménal Silvinho. Ça a duré deux matchs. Après un 6-0, on nous a dit, ça y est, Lyon, c'est vraiment le candidat au titre, le rival du PSG. On va voir ce qu'on va voir. Effectivement, depuis, on voit, il ne se passe plus rien. On a encore changé d'entraîneur. Et là, avec Rudy Garcia, on voit que c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien de différent. Donc, ça prouve bien que le problème, mais ça coûte moins cher de virer un entraîneur que des joueurs, on a bien compris. Mais il y a un moment, je vois Bertrand Traoré jouer dans cette équipe de Lyon. Je dis, mais attends, si tu n'as pas envie de jouer,
il ne jouera pas ce soir. Rudy Garcia l'a mis à l'écart.
Dis-le.
Il joue parce que Lyon reçoit Metz, ça sera dans le multiplex RTL aujourd'hui en France avec Christian Olivier. Lyon reçoit Metz. Lyon, justement, Rudy Garcia a mis de côté Bertrand Traoré. Et il y aura Anthony Lopez, bien sûr, dans les buts. Alors Lyon, Cindy Colmenares, qui fait bonne figure au niveau comptable dans ce groupe en Ligue des Champions, mais c'est poussif.
C'est poussif, et puis moi je pense que les problèmes relèvent finalement des joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui jouent avec moins d'envie, mais en tout cas, si on parle du dernier match, parce qu'on est là aussi pour évaluer, bon, est-ce qu'il y a eu du changement depuis l'arrivée de Rudy Garcia, est-ce que ça s'améliore, on peut quand même se rendre compte que les choix tactiques qui ont été faits étaient quand même assez surprenants. Moi j'étais surprise de ne pas voir Thiago Mendes sur les terrains. Après, il explique en disant, oui, mais c'est aussi par rapport au match qu'il a fait contre Dijon, moi je fais au mérite. On veut bien les mérites, mais les matchs, c'est maintenant, il faut se bouger. Et il a fait un milieu assez qui prenait l'eau tous les temps, un peu trop offensif. Et finalement, on a vu les changements et l'équilibre qu'il peut apporter.
Mais les changements pour quel résultat? C'est ça,
Baptiste Després.
Il y a eu quand même de l'équilibre, il y a eu du mieux à la deuxième période. Bonjour, après, on va voir lors du prochain match, est-ce qu'il va encore nous faire
la question, Baptiste Després du Figaro, est-ce que Lyon a l'effectif pour jouer cette
Ligue? Je me pose la question et je m'interroge aussi sur le côté du leadership. Alors, Rudy Garcia vient d'arriver, donc il nous l'a joué nageur un petit peu au niveau de la com en disant je vais changer à tous les matchs, je vais changer au niveau du capitaine, on va voir un petit peu qui
émerge. Memphis ce soir normalement.
Donc, exactement. C'était Lopez. Bon, ça a pas marché, mais comme l'a dit Daniel, on va pas non plus lui imputer ça vu ses états de service. Mais moi, ce qui m'interroge là-dessus sur le côté. Ça manque de moelle, quoi. Ça manque de caractère, ça manque de leadership, ça manque de joueurs qui sont là pour rassembler, qui sont là dans les coups durs. Vous changez de capitaine, ok, très bien. Memphis Depay, c'est une star au niveau Lyon, oui, au niveau ça. Du vestiaire, d'accord. Mais
il n'a pas été mauvais. C'est juste qu'il revient des blessures.
Quand ça va moins bien, je le sens pas haranguer tout le monde. J'ai un petit peu de mal avec ça, notamment au niveau de la défense, que ce soit Marcelo ou autre. Je trouve que ça manque de joueurs leaders.
David Ayello, Yahoo Sport. Est-ce que Lyon va sortir des poules?
Ouais, ils sont. j'allais me dire, bon, sur ce que j'ai vu en seconde période, et voilà, ils doivent recevoir Benfica, donc oui, c'est possible. Maintenant, je reviens sur cette histoire d'état d'esprit, parce que ce qui caractérise.
Encore.
Ben oui, mais parce que sur Lyon, en fait, ce qui m'embête, c'est que le niveau de l'effectif, il est sans doute pas si catastrophique que ça. En tout cas, il est largement du niveau de Benfica, je pense.
Oui.
Mais. On en revient à cette histoire d'institution, c'est que pourquoi est-ce que ces joueurs, on parlait de Traoré, mais il y en a d'autres à Lyon et dans d'autres clubs français, se permettent ça. Je pense que les clubs français sont pas structurés comme des institutions, et ça me fait mal de le dire pour Lyon, parce qu'on avait pensé pendant un bout de temps que c'était le cas, qu'ils avaient réussi un petit peu à se structurer comme ça. Ce qu'on voit effectivement depuis 2-3 ans, c'est un club où les joueurs, on a l'impression que les joueurs sont un petit peu au club maître, quoi.
Et c'est assez récent, c'est ça, parce qu'en Europa League, on a vu des matchs contre
Béşiktaş, contre la Roma. Et du coup, ce côté institution, alors effectivement, en plus, on a vu Jean-Michel Aulas qui représente l'institution, qui était obligé, il voulait se mettre en retrait, et on peut le comprendre après plus de 30 ans passés à la tête du club, il a été obligé de revenir parce que les clubs ne sont pas représentés et surtout pas respectés en tant qu'institution.
Ce qui est formidable quand on voit l'équipe de Lyon, parce que tu as raison, globalement, quand tu vois l'effectif de Lyon, Lyon doit jouer les 3 premières places du championnat de France tous les ans, évidemment. Mais alors, il y a quand même un truc qu'il faut expliquer aux gens, enfin que tout le monde a vu, mais on nous dit des fois, les joueurs par exemple, ils sont tellement obnubilés par la Ligue des Champions qu'en championnat, ils ne sont pas là. Ouais. Ben, ils ne sont pas là.
Ils ont la tête ailleurs. Lyonnais, bon.
Et puis Lyon, ils ne sont même pas là en Ligue des Champions. Alors, il leur faut quoi pour se motiver?
On va laisser
passer Lyon, parce que bon, on a tourné un peu autour de Lyon qui n'est pas perdu, on l'a dit comptablement. Saint-Etienne-Rennes en Europa League. David Ayello, Yahoo Sport, Saint-Etienne. Train-train contre les Ukrainiens.
Ouais,
de
bah, on va revenir sur la même thématique.
État d'esprit.
Non, mais
équipe en construction aussi avec un nouvel entraîneur.
Oui, mais on peut pas quand même s'abriter derrière ça.
Ah non, pas du tout.
Vous me rappelez le nom
d'équipe
parce que je le tiens pas bien en fait. Oloxandria. Oloxandria, c'est ça.
Oloxandria.
Voilà, oui. Bah non, mais vous aviez entendu parler d'Oloxandria. Enfin, c'est un monstre européen.
Pas moi. J'avais pas fait gaffe à ça.
On peut pas. Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible. Et on en revient quand même aussi à cette histoire que on parlait d'ambition et d'exigence. Quand même, sur les clubs français, on a quand même du mal à se dire on joue les compétitions européennes autant que la Ligue 1. On a l'impression que pour certains clubs, c'est impensable de jouer tous les 3 jours.
Ouais.
Mais respectez vos engagements, le public, les sponsors.
C'est surtout respecter juste vos places au classement, parce que sinon, ça sert à rien d'être 3e.
Oui, déjà aussi. Mais voilà, il y a quand même de ça aussi qui joue.
À chaque fin de saison, on a l'impression que c'est un aboutissement d'arriver en Ligue Europa et que ça y est, le travail est fait, on empoche un petit peu l'argent et puis basta. Sauf que derrière, vous avez des clubs, effectivement, qui la jouent quand même plus sérieusement que nous. Regardez Séville. Je ne suis pas sûr que Séville, depuis 10 ans, ait un effectif largement supérieur à certains clubs français qui étaient engagés en Ligue Europa, sauf qu'il y a du sérieux, sauf qu'il y a de l'ambition, et sauf qu'en début de saison, on se dit pas, ah bah, le jeudi soir, on va être en vacances. Et à part quelques clubs de temps en temps, comme Rennes l'année dernière, qui l'a joué.
Mais Baptiste, est-ce que c'est pas aussi la faute des médias?
Mais on en fait partie.
Attendez. Oui, mais attendez, laissez-moi finir la phrase.
Moi, j'ai jamais joué, je me suis jamais retrouvé sur un terrain de Ligue Europa.
Mais si on dévalorise cette Europa League. On dit, ouais, c'est quand je parle ici de la finale de Marseille, tout le monde me tombe dessus en disant, ouais, mais on s'en fout de la finale de Marseille. En Europa League, c'était l'Europa League.
Non, mais c'est du parcours qu'on
parle. Oui, c'est toi que je regarde.
Oui, c'est le parcours dont je parle, c'est pas l'Europa League en soi. D'accord. Gagner l'Europa League, ça reste une compétition européenne.
Si on se fout de l'Europa League, on peut pas reprocher au club de s'en foutre aussi.
Le plus grave, c'est que les joueurs de Saint-Etienne que j'ai vus jeudi, ils se foutent de leur maillot.
Leur histoire,
je suis pas un supporter,
je suis
ni anti ni pro stéphanois, mais pour moi Saint-Etienne, ça représente quelque chose dans le paysage footballistique. Quand je vois ces mecs là jeudi soir face à Oloxandria, je me dis mais c'est pas possible de pas respecter ce maillot là, ces supporters là, c'est pas possible. Alors, il y a un moment...
Saint-Etienne, dernier de son groupe avec 2 points. Ouais. Et Rennes aussi, dernier de son groupe avec 1 point. Rennes, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a eu des erreurs d'arbitrage, il y a eu des exclus. Bon, ça fait partie du match. Ouais. Mais là aussi, Rennes, c'était une ambition d'aller assez loin en Europa League.
David Ayello, c'est un petit peu comme pour Lille tout à l'heure. C'est-à-dire que, enfin, sur un autre registre, c'est-à-dire que pour Lille, on a dit que... Ils ont fait un partout, ils sont revenus en fin de match, l'état d'esprit était plutôt justement digne de la Coupe d'Europe. Pour Rennes, c'est plutôt le fait de s'être plombé. Voilà, il y a quand même 2 cartons rouges hein, au début de chaque période. Bon, bah, analyser un match, un état d'esprit après, en fonction de, avec une équipe qui joue à 9 pendant 45 minutes, c'est quand même plus délicat. Donc, maintenant, ça retire pas effectivement le fait que sur la globalité pour l'instant de la compétition, c'est décevant aussi. Enfin, et c'est surtout pas dans la lignée de ce qu'on a vu l'année dernière.
Ouais, en tout cas, sur l'Europa League, c'est un peu triste, hein, le parcours de Rennes et de Saint-Etienne.
Et beaucoup des clubs en restructuration aussi. Quand on rappelle toutes les situations qu'il y a eu pour avoir finalement l'entraîneur et les faits qu'ils soient en reconstruction, on comprend aussi qu'ils puissent avoir ces difficultés lorsqu'ils vont sur les terrains européens et quand toutes les semaines ils sont confrontés à ces niveaux aussi qui peut apporter la Ligue 1, c'est tout à fait normal qu'ils puissent avoir aussi comme ces manques d'ambition qui se reflètent lorsqu'ils vont ailleurs.
Merci, on se retrouve évidemment après les informations. Je vous rappelle qu'en Ligue 1, Lille mène devant Bordeaux 2-0. Tout à l'heure en Ligue 2, 3 est allé gagner à Lorient chez le leader 1-0. On se retrouve avec Cindy Colmenares, David Ayello de Yahoo Sport, Baptiste Després du Figaro, Jean-Philippe Goron, journaliste formateur à l'ESJ Lille. Dans quelques instants sur RTL, à tout de suite.
RTL, on refait le match.
Faire tout est de... Passez une bonne soirée avec RTL.
La suite, on verra.
RTL, il est 19h. La formation avec Sébastien Rouxel, bonsoir.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Du foot ce soir avec la suite de la 11e journée de Ligue 1. Lille reçoit en ce moment même Bordeaux. Et à 20 minutes de la fin, les Dogs mènent 2-0. 6 autres confrontations prévues ce soir. Lyon face à Metz, Brest contre Dijon, Strasbourg affronte Nice, Reims, Nîmes et Montpellier, Angers. Des rencontres à suivre en direct dans le multiplex Le Parisien aujourd'hui en France à partir de 19h30 sur RTL. Pas de triplé pour les Blacks. L'Angleterre a créé la sensation en s'imposant face à la Nouvelle-Zélande. Score final 19-7. Alors qui affrontera le 15 de la Rose, le Pays de Galles ou l'Afrique du Sud? Réponse demain matin, coup d'envoi à 10h. Et puis pas de finale pour Gaël Monfils à Vienne. Le Français s'incline en 2-7 face à Diego Schwartzmann, 6-3, 6-2. Ses espoirs de qualification au Master s'amenuisent. En Angleterre, le chauffeur du camion de la mort mis en examen ce soir, inculpé pour homicide involontaire et trafic d'êtres humains après la découverte de 39 corps dans son véhicule cette semaine. En fin d'après-midi, une 5e personne a été arrêtée. Plus que jamais sous pression, l'exécutif chilien tente de calmer la contestation. Le président Piñera annonce ce soir un vaste remaniement de son gouvernement, un jour après une manifestation historique contre les inégalités sociales. Plus d'1 million de personnes s'étaient mobilisées. Autre rassemblement cet après-midi à Rouen, cette fois plusieurs centaines de personnes ont défilé depuis le palais de justice. L'objectif, réclamer plus de transparence, 1 mois pile après l'incendie de l'usine Lubrizol. Hier, Santé publique France a annoncé une enquête de santé. Elle sera menée en mars auprès des personnes qui ont été exposées. Nouveau week-end de chassés croisés sur les routes. Journée classée orange en Ile-de-France. Et ce soir, il y a du monde en région parisienne, surtout Pierre Collat.
Oui, actuellement, il y a 166 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. C'est assez important pour un samedi soir. Ça coince principalement dans les derniers kilomètres de l'A4, avec 2 km de ralentissement. Vous êtes également nombreux à arriver depuis le nord sur l'A1. Et puis, je vous signale un accident sur l'A709 près de Montpellier. 3 véhicules sont impliqués au kilomètre 10. C'est en direction de Nîmes, à la sortie 29, Montpellier-Est.
Merci, Pierre Collat. Et puis une bonne nouvelle pour les gros dormeurs, le changement d'heure c'est ce soir, 60 minutes de sommeil en plus, une pratique à laquelle l'Union Européenne veut mettre un terme, mais pas avant 2021. Le temps, demain, il restera ensoleillé et doux dans l'est et le sud du pays, les pluies vont en revanche progresser dans le nord et l'ouest avant de gagner les régions centrales et le sud-ouest en fin de journée. Les températures matinales, elles seront comprises entre 5 et 17 degrés dans l'après-midi, comptez 12 à Dunkerque, 13 à Brest, 14 à Paris et 23 du côté de Marseille. Marseille. RTL, il est 19h03. La suite dont refait le match avec vous, Denis Balbière.
Merci Sébastien Houxel. Nous allons parler évidemment du Classico. Paris Saint-Germain-Marseille se joue demain. Les Marseillais ont-ils une chance de ne pas sombrer? Est-ce que le Classico a-t-il la même saveur qu'auparavant? Nous sommes avec Cindy Colmenares, David Aiello de Yahoo Sport, Baptiste Després du Figaro et Jean-Philippe Goron, journaliste formateur à l'ESG Lille. A tout de suite sur RTL.
Denis Balbière sur RTL. On refait le match.
Le transmettre.
Bonne soirée en compagnie d'RTL.
On a tellement de choses à se dire. Denis Balbire sur RTL.
On refait le match.
Demain, Paris Saint-Germain, Marseille, le Classico. Est-ce qu'on s'en moque? Est-ce que ça devient une routine? Est-ce que c'est génial? Est-ce qu'on attend des choses sportivement et surtout autour de ce match? Est-ce que vous sentez quelque chose de palpable, d'intéressant? Est-ce que ça palpite pour vous, David Aiello, Yahoo Sport?
Bah non, ça palpite pas. Enfin, on l'a bien remarqué. Bah, je sais pas, ça...
Ah oui, parce que vous dormez là.
Bah, non, je dors pas du tout. Mais j'aimerais bien ne pas dormir autour d'un Paris Saint-Germain-Marseille.
C'est bien, PSG Marseille.
Bah oui, mais ça fait pratiquement 10 ans que Marseille n'est pas gagné au Parc. Excusez-moi.
Bah, oui, mais c'est la capitale contre les Sud de la France. Comment tu veux dire ça?
Ce qui a fait le sel de cette rencontre et de cette confrontation, c'est ce qui s'est passé dans les années 90, à savoir deux équipes au top pendant plusieurs années, deux équipes qui à elles seules composaient 95% de l'équipe de France. Et voilà, et effectivement, Cindy en parlait à l'instant, et on rajoute dessus la légendaire, j'ai envie de dire, confrontation Paris-Province. Et voilà, on avait notre classique à nous. Sauf que voilà, on a un des éléments, enfin, on a même deux éléments qui ont disparu, à savoir le niveau international pour ce qui concerne Marseille et désormais. Et puis effectivement, la rivalité sportive, il n'y en a plus.
Les niveaux internationaux, il y a quand même des joueurs qui sont arrivés, donner peut-être à amener de la passion sud-américaine. Benedetto,
Et là, ça ne suffit pas. Hein.
Non, c'est clair qu'il ne pourra pas porter à lui tout seul les matchs. Mais en tout cas, lorsqu'on entend l'entraîneur, peut-être, tu le disais tout à l'heure, on-off, Villas-Boas, qui parlait de ses classicos, je pense qu'il ignore aussi l'état d'esprit de ses joueurs.
C'est des
sud-américains. Ils ne vont pas venir là.
Non, il faut juste rappeler que, redonner le contexte, il a laissé entendre que ce match était un match comme les autres, que c'était un match à 3 points, que quelque part, c'était pas le match le plus important des prochaines semaines, que ce qui arrivait derrière en Coupe de la Ligue et en championnat, c'était plus important.
Oui, mais il dit ça parce que la différence, elle est immense.
Il dit ça entre les deux.
Jean-Philippe Gouron. On peut aussi se dire, en voyant le côté un peu positif de Villas-Boas, que finalement, le facteur X, ça peut être lui. Ça peut être lui parce que les classicos, il sait en gagner. Portugal, l'année en 2010-2011, il en a gagné 4 la même année.
Oui, mais est-ce que la force de niveau était la même?
Non, mais ce que je veux dire, c'est aussi dans la préparation de ce genre d'événement. C'est-à-dire qu'évidemment, personne ne le croit.
Ah oui, dans la préparation.
Voilà, personne ne le croit quand il dit « c'est pas important ». Il sait que c'est très important. Même si PSG était premier et que Marseille était dernier, ça resterait un match qui fait partie de l'histoire du football français. Donc c'est un match qu'on a envie de regarder. Et je crois pas une seconde que les supporters de l'Olympique de Marseille se moquent totalement du match de demain soir. Ça n'existe pas.
C'est ce qu'il a dit. Hein.
Je suis d'accord avec Jean-Philippe. Et puis au niveau de la communication, moi c'est peut-être un peu mon regret, parce que autant sportivement, même si sur un match, la magie du sport peut faire que, je trouve que ça se met moins de petites attaques, moins de petits tacles justement en amont. Et on manque un peu de ça. Ça devient quand même ultra lisse. Dans les tribunes, il y aura quand même une belle ambiance. Alors après, il y a toujours l'histoire de supporters, etc., qui montent pas au Parc des Princes ou qui descendent à Marseille. Mais je trouve que...
Bah on est en France, hein, les supporters de l'extérieur, ils viennent plus.
Exactement.
Hein. Dès que ça dépasse 10, on peut pas l'heure. Voilà, c'est un problème.
Après, ça devient compliqué.
Mais je trouve que ça devient un petit peu trop polissé, un peu trop lisse, et c'est un peu dommageable. En tout cas, côté média, nous, bien entendu, puis même pour faire monter un petit peu la pression. Là, depuis une semaine, depuis 3-4 jours, on n'a pas beaucoup parlé.
David Aiello, Yahoo Sport.
Non, mais je reviens juste sur les propos de Villas-Boas. Je trouve ça assez dangereux comme jeu de sa part, parce que effectivement, c'est sans doute stratégique.
Quel propos, que c'est un match comme un autre.
Voilà, sans doute stratégique. Il se protège un petit peu. Si ça se passe mal, il l'avait dit.
C'est ce qu'il a dit. Tout voilà. J'ai trouvé très intéressant de sa sortie.
Exactement. Et si ça se passe bien, ça sera le héros. Maintenant, c'est quand même un double tranchant, parce que si ça se passe mal pour son équipe, je pense que les supporters, il va perdre beaucoup de crédit auprès de ses supporters, parce qu'ils vont dire, quel message a envoyé l'entraîneur?
Je sais pas. Tu perds à Paris,
évidemment. Tu pars à Paris quand ton entraîneur il te dit allez-y en tongs les gars, de toute façon c'est pas le
même discours. Est-ce que tu crois que malgré ce discours-là, les joueurs de Marseille vont pas être être motivé demain soir.
Je te dis pas le contraire, je te dis juste que ouais, si ça se passe mal, ça compte quand même, les mots ont un sens. Quand tu prends la parole publiquement et que tu envoies ce message-là, il faut que ça se passe bien derrière.
Non, il faut être courageux. Au bout d'un moment aussi, on ne peut pas tous les temps accepter qu'un entraîneur dise oui pour essayer de ménager, parce que s'il perd, et ça peut être probable, du coup, pour l'après, il passe à tirer les foudres des supporters et tout le monde. Donc, annoncer de toute façon que les supporters, qu'est du PSG et de l'OM, depuis les mercato, déjà, ils étaient un peu en train de se faire du soutien psychologique. On voit beaucoup moins des insultes, parce que souvent, c'était des insultes, vraiment une rage entre les supporters. Il y a quand même dit qu'il ne
mettrait pas les pieds à Marseille.
Oui, enfin, il faut quand même qu'il mette les pieds à Marseille pour faire des matchs. Enfin, il voulait dire à l'OM, je pense, mais c'était maladroit.
Ouais,
mais
dans la ville de Marseille. Mais
ça réveille en tout cas quelque chose. Et c'est vrai qu'on le voit de moins en moins, des joueurs qui s'attaquent, qui sont plutôt là à dire on est amis, on est en équipe de France, ou on est dans ce type de choses. Et
d'ailleurs, pour aller quelques fois à Marseille, il y a un fait nouveau à Marseille, c'est que maintenant, tu te balades avec le maillot du Paris Saint-Germain dans Marseille.
Ah oui, avant, c'est impossible.
Il n'y a aucun problème, alors qu'avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Baptiste Desprez.
Les propos d'avant-match, je trouve que ça révèle aussi que le côté marseillais, en tout cas côté dirigeant, on est complètement vacciné. Parce que rappelez-vous, quand Franck McCourt débarque et qu'il dit avec l'OM Championship Project, on va être, à défaut d'être. Non, il le dit même clairement, on va aller chatouiller le Paris Saint-Germain. Alors là, aujourd'hui, on peut en rigoler. Ils ne vont jamais chatouiller, en tout cas dans les 2-3 années à venir, on verra plus tard. Mais ça me semble compliqué. Donc je pense que côté dirigeant, ils sont complètement vaccinés. Et Villas-Boas, quand il arrive, peut-être qu'on lui dit aussi, au-dessus de lui, alors prenez à tort ou à raison, mais peut-être pas trop mettre d'huile sur le feu si on s'en prend 4 ou 5, etc. Après, je suis d'accord avec Jean-Philippe, dans le vestiaire, il va pas du tout tenir ce discours-là.
Et puis, il y a quand même quelque chose sur lequel il faut insister. Il faut revenir un petit peu sur la genèse de ce classico. Parce que classico PSG-OM, c'est un truc, Denis le sait très bien, ça a été inventé de toutes pièces par Canal+. Voilà. Ça n'existait pas dans l'histoire.
Et Bernard Tapie.
C'est une entente entre Canal+ et Bernard Tapie. C'est une sorte d'entente gagnant-gagnant pour la chaîne, pour ses abonnements et pour Bernard Tapie qui avait envie que son club soit évidemment surmédiatisé. Mais avant, le gros match du championnat, c'était pas le Paris Saint-Germain, évidemment. C'était
Marseille-Bordeaux.
Voilà. Bon. Donc, on peut pas non plus leurrer les gens sur la communication pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si c'est le classico, parce que ça a été brandé comme ça, parce que ça a été vendu comme ça, il y a un moment, les gens ne sont pas dupes.
Si
les gens s'embêtent devant la télé, il y a un moment, le classico, il perd de sa saveur.
Oui,
c'est aussi ce que les joueurs en font.
D'accord, mais le classico, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il a aussi pris parce qu'il y avait un terreau social fertile, historique.
Et ce terreau-là, il est toujours là.
Ce que je veux dire, c'est que pour les Marseillais, Paris, et je ne parle pas du Paris Saint-Germain, mais Paris, ça reste la capitale, ça reste quand même l'ennemi, entre guillemets. Alors, plus ou moins, effectivement, et dans le domaine sportif, ça avait pris une certaine importance. Ce que je voulais relever également, c'est qu'on parlait des petites phrases des joueurs. Alors, c'est vrai qu'on s'est dit, il n'y en a plus, c'est peut-être regrettable, on les regrette. Il faut rappeler aussi qu'à un moment, il y a eu des choses qui se sont passées dans les tribunes. Ça allait très loin, il y a eu des morts, il y a eu des incidents, il y a eu la dernière fois, on rappelle qu'il y a 2 ans, on a autorisé à nouveau les supporters marseillais à venir au Parc des Princes et ça s'est terminé avec la moitié de la tribune cassée et ça aurait été la même chose, hein. Ça aurait été la même chose dans l'autre sens. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est devenu difficile aussi parce que finalement, pour beaucoup, c'est du folklore, là je peux le dire, je pense que le mot est adapté, c'est du folklore autour du match, certains l'ont pris au pied de la lettre. Je parle de certains supporters qui n'ont pas eu le recul de comprendre que leur vie n'est pas en jeu autour d'un Paris Saint-Germain-Marseille et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des morts ou même des blessés ou des incidents autour de ce match. Donc c'est un petit peu dommage quand même qu'on soit plus capable d'aller dans ce terrain-là parce que c'est
peut-être aussi en fait de notre société au-delà du foot. Là, pour le coup, dès qu'on sort des pics ou des petites phrases, ça peut prendre un...
Des proportions énormes.
Ouais, c'est aussi le rôle que la presse joue là-dedans. C'est-à-dire, un exemple, quand on fait parler, j'ai rien contre lui, je vais le citer, René Malville, quand systématiquement en running gag, on lui précipite le micro sous le nez, machin, est-ce que ça a vraiment au bout d'un moment un intérêt?
Oui, on parle des supporters. Ils se sentent aussi un peu représentés par ces personnages-là.
Mais c'est caricatural, ça devient caricatural.
Et alors, en fait, l'important, je pense, pour nous, c'est de faire survivre aussi ces choses-là qui peuvent ramener encore de la visibilité et donner quelque chose de l'émotion dans ces matchs-là. Les joueurs mettront de l'émotion, ça, il n'y a aucun doute. Moi, ça ne me choque pas lorsqu'on essaye d'en faire par rapport à ces classicos parce que par moment, ça a vraiment servi dans l'histoire du foot français.
On n'est pas communicant, on est journaliste, on n'est pas communicant. C'est pas à nous de faire le buzz.
Pour moi, l'entraîneur, il aurait dû avoir le courage de dire, même quitte à peut-être se faire moquer parce qu'il a perdu, de dire on va vraiment mettre du sang sur les terrains, on va tout donner. Et ça n'a pas été le cas. On voit qu'il fait par des petits pas en se disant je ne veux pas me mettre tout le monde monde à dos. C'est quand même pas possible, c'est scandaleux. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, de River, les maillots que je porte aujourd'hui, et Boca. Tu n'entendras jamais un entraîneur de River ou de Boca s'exprimer de la sorte. Au fait, ils s'entendent peut-être bien sur les terrains, enfin, en dehors des terrains, mais sur les terrains, c'est on y va, c'est à sang
Baptiste
et
Després.
À feu. Enfin,
Baptiste voilà. Després,
je vais transposer quand même ce discours de Villas-Boas avant un classico. Un coach français, par exemple, sur un PSG Marseille, mais il se fait descendre. Il se fait descendre parce qu'on dit, mais attendez, c'est mou, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît pas l'histoire entre les deux clubs, etc., etc. Là, ça passe parce que c'est Villas-Boas, il a des bons résultats, mais je trouve que c'est quand même un
rapidement,
petit peu.
Rapidement, Jean-Philippe,
et c'est l'occasion de parler juste des supporters, parler de l'actualité récente. Cet après-midi, il y avait le derby de la Roure à Schalke, entre Schalke et Dortmund. Il y avait 8000 supporters de Dortmund qui étaient à Schalke. Il n'y a pas eu un pépin.
Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques instants à Lille, Lille-Bordeaux. Hervé Veuck, toujours 2-0 pour les Lillois.
Ouais, toujours 2-0 et franchement des Bordelais d'une pâleur, d'une froideur à tomber par terre. Il reste 3 minutes, les buts ont été marqués par Benjamin André et par Juzice sur pénalty.
Merci beaucoup Hervé Veuck, on conclura avec vous bien sûr ce match tout à l'heure. Nous sommes avec Cindy Colmenares, David Ayelodier au sport, Baptiste Després du Figaro, Jean-Philippe Goron, journaliste formateur à l'ESG Lille. Nous parlerons encore du Classico PSG Marseille, c'est demain, nous irons sur le terrain sportif. Est-ce que Marseille va sombrer? Est-ce que Marseille a une chance? Vous êtes sur RTL, à tout de suite.
RTL, on refait le match.
On a tendance à penser sur Auchan.fr.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
La dernière ligne droite d'On refait le match avec Cindy Colmenares, David Ayello de Yahoo Sport, Baptiste Després du Figaro, Jean-Philippe Goron, journaliste formateur à l'ESG Lille. Sportivement, alors il y a quelqu'un que ça intéresse en tous les cas, le Classico, c'est Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps qui sera dans les tribunes. Et puis du côté du groupe marseillais, le retour de Dimitri Payet. Est-ce que pour autant, sportivement, est-ce que c'est joué, Jean-Philippe Goron, déjà?
Je crois pas que ce soit joué. C'est pas parce que dans ce match-là, il y a un hyper favori que le match est joué. Je rappelle qu'il y a quelques saisons,
statistiques, elles font mal. Hein.
Oui, je sais, c'est 19 derniers classicos, 16 victoires du PSG, 3 nuls. Mais ce qui s'est passé avant, ça n'a aucune influence sur ce qui va
bien
se passer.
Sûr, demain. Ah, ça déjà, c'est pas sûr. Ça, déjà, c'est pas sûr.
Ben en quoi,
il y a quand même la moitié de cet effectif-là qui ne parvient pas à gagner
face au Paris Saint-Germain. Si les stats passés ont une influence sur demain, ça veut dire qu'il ne faut pas jouer le match.
Mais non, c'est
que
pas
plus
ça.
Jamais Marseille ne va pas PSG.
Je te dis pas que ça te donne le résultat, mais quand à l'inverse tu me dis que ça n'a aucune influence.
Mais non, je pense que ça n'a pas d'influence.
Mais si, bien sûr, forcément. Mais tu es en train de me dire qu'en gros, si on extrapole que l'histoire n'a pas d'influence sur le présent, bien sûr que si.
En quoi les Marseillais doivent arriver demain sur la pelouse du Parc en se disant on a
mais
déjà perdu.
Je te
perdu.
Dis pas qu'ils doivent ils vont pas arriver comme ça, mais je suis d'accord avec David, je trouve qu'il y a une certaine forme de conditionnement parce que.
Le conditionnement il doit être positif, ça doit dire on va sortir de cette spirale.
C'est comme ça que ça doit faire. Mais après, au cours du match, ils peuvent voir quand ils voient un Mbappé.
Tu sais, quand tu vas au Parc des Princes, que c'est jamais.
Reims a des zéro chance au Parc, ils ont gagné au Parc.
Pour moi, ça a les poids qu'on leur donne aussi. Et voilà, je reviens encore au sujet, je l'ai dit en off tout à l'heure, de l'entraîneur. C'est sûr que quand tu dis ça, les joueurs ils peuvent être tentés d'arriver dans un état d'esprit en se disant, si on perd, c'est déjà pardonné. Pour moi, ce qui est intéressant de demain, ce n'est pas autant voir une victoire ou une défaite. On peut se dire peut-être que c'est plus sûr que les Paris Saint-Germain arrivent à les remporter, mais on voit au moins voir un beau match. Parce que c'est ça dont on manque finalement en Ligue 1. Là, ils ont l'opportunité d'aller se battre. Pour moi, et je le pense, l'Olympique de Marseille va arriver dans ces matchs avec un état d'esprit en se disant, comme si c'était la Champions League, en se disant c'est quand même les PSG, on va aller les chercher. Et c'est ça qu'il faudrait dans ces matchs.
David Ayello, Yahoo Sport.
Non mais moi je suis d'accord pour dire que là l'état d'esprit évidemment des Marseillais sera important et j'ai pas trop de doute sur le fait que effectivement les Marseillais
et
vont...
Et c'est Rémi qui vient clôturer l'affaire alors qu'on était entré dans le temps additionnel. 3-0 pour Lille en démonstration ce soir après un match de Coupe d'Europe cette semaine, comme quoi on peut bien jouer en Coupe d'Europe et bien jouer en championnat. 3-0 Loïc Rémy.
Merci Hervé Veuck, 3-0 pour Lille qui prend donc la troisième place du classement derrière Nantes et évidemment le Paris Saint-Germain. David Ayello, Yahoo Sport.
Je disais que j'ai assez peu de doute sur le fait que les Marseillais vont aborder ce match avec beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux, quel qu'ait été le discours de Villas-Boas. Maintenant, moi, j'ai envie de parler du jeu, parce que finalement, on n'en a pas encore parlé. Il se trouve que le Paris Saint-Germain, depuis 4-5 matchs, en tout cas sur toutes les grosses affiches qu'ils ont eu à négocier, que ce soit le Real Madrid, que ce soit Galatasaray là-bas, Bruges, on l'a vu il y a 3 jours, Lyon
Bordeaux, enfin tous les gros matchs, ils ont affiché un niveau de jeu qui était quand même assez impressionnant.
Une efficacité incroyable.
Et une efficacité incroyable. Donc moi, j'ai juste envie de parler de ça un petit peu. C'est que quand on veut imaginer, effectivement, peut-être que pour le suspense ou pour plein de choses, ça serait intéressant de voir Marseille accrocher Paris, il va quand même falloir hausser son niveau à vraiment de plusieurs crans par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps. Parce que entre ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain, pas contre Reims, mais quand il s'agit de jouer des matchs à enjeu, et ce qu'on a vu de Marseille, il y a un fossé monumental.
Alors, même que PSG descende aussi de 3 crans hein, en même temps.
Et en même temps.
Oui, ce qu'on voit jouer du PSG dans les matchs en jeu, c'est souvent dans la première partie de saison.
On parle de la première partie de saison.
Oui, je veux dire que souvent le Paris Saint-Germain danse un peu sur tout le monde en première partie de saison.
Mais d'accord, mais là on est le 27 octobre, on est en première partie de saison.
Quand tu dis que le Paris Saint-Germain dans les matchs importants, ils sont là.
Mais je parle de maintenant, pourquoi est-ce que tu me dis ça?
Oui, on va voir si ça va durer.
Et bah, ah, d'accord, ça, c'est la question du soir contre Marseille demain.
La limite du PSG, c'est quand même ça depuis plusieurs saisons.
D'accord,
Baptiste Després.
On est en train de parler ça depuis septembre.
On va attendre. Ne les portez pas plus haut qu'ils ne sont.
Mais on
les
porte pas.
Non, mais on parle de demain. On parle de PSG Marseille, Baptiste Després, le FIA.
Non, mais au niveau du jeu, ce qui va être intéressant de voir, Cindy disait. On espère un bon match. Alors après, il y a encore des poncifs, c'est pareil. Il faut aussi deux équipes qui jouent le jeu. Est-ce que si demain Villas-Boas met le bus devant avec cinq défenseurs, c'est toujours pareil. Il faut voir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de qualité pure, et puis quand vous avez un garçon comme Kylian Mbappé qui fait une rentrée en jeu là comme ça en Ligue des Champions cette semaine, qui attend qu'une chose lui en tant que Parisien, de jouer contre Marseille, on peut s'attendre quand même à avoir de belles choses dimanche soir.
Non, et par rapport à Marseille, je ne sais pas si vous avez vu leur plus récent match, mais quand même il y a eu du changement. On a vu un milieu qui se portent de mieux en mieux avec un Rongier, un Lopez qui ont mis énormément d'intensité. On voit bien que ça fonctionne aussi beaucoup mieux lorsqu'il y a, bon, Strootman. J'étais très méfiante du joueur au début, je ne faisais pas trop confiance, mais finalement quand il descend un peu dans la formation, ça donne beaucoup plus
c'est pas un génie non plus, Strootman.
Ça améliore un peu la tête. Alors il faut voir qu'est-ce qu'il va faire Villas-Boas demain. Est-ce qu'il va remplacer finalement ces milieux qui fonctionnent bien, Lopez avec Longier, est-ce qu'il va mettre Sanson à la place? C'est aussi une question des choix. Moi, je pense que ce que l'OM est en train d'apporter actuellement peut en tout cas donner du beau jeu demain.
Baptiste Després, le Figaro, le retour de Payet dans le groupe?
Forcément, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un joueur de caractère, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui sur des gros matchs, peut aussi son niveau de jeu. Mmh. Sur un coup de patte, il peut débloquer la situation. Donc, oui, bien sûr, c'est un gros plus parce que Marseille manque quand même de joueurs ultra décisifs. Ils ont leur meilleur joueur qui est sur le banc et au frigo depuis quelques semaines, Florian Thauvin. Alors, Benedetto fait un bon début de saison, mais ça semble quand même un peu compliqué pour aborder ce match.
Là, en parlant de Payet, on est typiquement dans le joueur qui va essayer de briller dans un match pareil. David Ayoli au sport.
Qui, sur les derniers matchs, justement, face à Paris, et c'était le cas d'ailleurs aussi pour Thauvin, a déçu. Alors, et si on extrapole encore plus loin, il déçoit quand même depuis plusieurs saisons maintenant. Donc, évidemment que c'est en soi un joueur qui a le niveau pour, qui devrait justement porter son équipe. C'est le moment de le faire. Là où c'est délicat pour lui, c'est que, avec la suspension dont il a été victime, j'allais dire, qu'il a reçu plutôt logiquement, il a pas joué depuis 3 matchs. Donc, à quel rythme il aura? Si au moins il pouvait pendant 1 heure porter son équipe et ne serait-ce qu'en termes de leadership dans le jeu, apporter ça serait déjà
très
bien.
Moi, j'en doute pas. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment faim.
Si t'as déjà vu dernier match.
Et là, il est plus aidé par la configuration qui est en train de prendre l'OM. Après, il ne faut pas non plus être complètement illusoire. Enfin, moi, j'essaie juste de vous dire que l'OM n'est pas non plus intégré. Je pense, si on devait faire un pronostic, que le PSG va remporter ses matchs, mais je pense que l'OM va donner de bons jeux. Ne serait-ce que parce que je veux un changement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans la composition de cette équipe et la façon dont cette équipe maintenant regarde les autres équipes droit dans les yeux.
Encore une fois, je trouve que moi, à 100%, il y aura pas de match. Si le PSG de dimanche soir est à 100%, il y a pas de match.
C'est pour ça que
il y a que des internationaux. Vous voyez côté Paris Saint-Germain et à Marseille, comptez-les quand même. Comptez-les, c'est compliqué.
C'est vrai que du coup, j'insiste là-dessus. La clé, elle est dans les pieds parisiens.
Mais bien sûr.
Si les Parisiens sont leur niveau, ça sera comme d'hab et puis ça.
Il y a un petit truc, un petit débat rapide sur le Paris Saint-Germain. Icardi, Cavani.
Ça, c'est typiquement français. Ça, c'est le genre de débat. Du style, on doit un peu s'embêter.
Il est sur le banc, donc je sais pas.
C'est bien, c'est typiquement français ça, de sortir un débat. T'as deux très bons attaquants, certes dans un registre différent. Moi j'ai envie de dire, tant mieux pour eux.
Non, et puis après, il ne place que pour un seul là.
Oui, pour elle, fera son boulot. Mais
il y a eu des moments où
tout le monde était blessé. On se demandait, déjà il n'y aura pas Choupo-Moting, c'est bien peut-être.
Mais Jean-Philippe, c'est pas mal de savoir qui doit jouer.
On a évité
éviter ça, on va peut-être éviter ça.
La question, c'est de savoir qui doit jouer. Qui doit jouer entre les deux. C'est ça le vrai débat. Qui doit avoir la place de neuf. Je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a un joueur qui est l'idole du club.
Et pourquoi ce serait pas les deux?
Pourquoi ce serait pas les deux?
Attendez, s'il vous plaît.
Pourquoi ça serait pas les deux? Parce que quand Neymar va revenir et que tu ajoutes Mbappé.
Non, mais là, demain, pourquoi ce serait pas les deux?
Je pense que la question, c'est pas que pour demain.
Je suis là. On y reviendra dans quelques instants, si vous voulez bien. Pour conclure sur le Classico, effectivement, ce débat intéressant, Icardi, Cavani. Nous sommes avec Cindy Colmenares, Baptiste Després du Figaro, David Aiello. Ah oui, c'est lui, Yahoo Sport et Jean-Philippe Gouron. Tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Vous souhaitez. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Avec Cindy Colmenares, Baptiste Després du Figaro, David Aiello de Yahoo Sport, Jean-Philippe Gouron. Allez-y, Icardi, Cavani, c'est parti.
Donc, je disais... je prie la parole tout de suite. Non, mais je disais, Icardi, il n'est pas venu à Paris pour rien. Il ne faut pas être naïf. Et une femme comme Wanda, je l'ai eue au téléphone très longuement. Je ne vais rien dévoiler de ce qu'elle
a dit. Non, on ne peut pas annoncer qu'on a eu quelqu'un au téléphone pour dire que... Non, il ne faut pas être naïf dans la vie. Vous savez, un joueur de classe internationale qui vient à Paris,
aussi pour avoir sa place, pour être, je vais parler comme Wanda, pour servir au collectif.
Mais Cavani, c'est pas le gardien du stade.
Évidemment, mais qu'est-ce que... Non, mais Cavani, c'est quand même un joueur extraordinaire, et pas seulement par son talent, qu'on les connaît tous sur les terrains, mais également parce qu'il a réussi, et vraiment, il a la marque du PSG.
Il est rentré dans l'histoire du PSG,
et il représente, c'est que d'autres ont bafoué l'institution du PSG. Je ne citerai pas ces joueurs brésiliens. Mais ce qui se passe avec Cavani, c'est qu'il a été blessé, donc c'est pour ça qu'il est ménagé, et c'est vrai qu'il a l'âge, et que les PSG, il ne faut pas être dupes, ils sont en train aussi d'envisager la suite, parce que Cavani, il est resté là parce qu'il a eu son enfant, parce qu'il adore les clubs, parce qu'il est très bien, mais il ne va pas rester là éternellement, et il faut trouver une solution.
L'histoire, la suite de l'histoire, tout le monde la connaît. La suite de l'histoire, c'est que Cavani quitte le PSG au mois de juin, et que l'avancante l'an prochain, ce soit Icardi. Et au niveau âge, et au niveau... Voilà, il n'y a pas de débat.
Et il est excellent,
Le débat, il est... Comment est-ce qu'on peut les faire jouer? C'est ce que disait David.
Non.
Est-ce qu'on peut les faire jouer ensemble en fonction des matchs?
Cindy, t'as répondu.
Est-ce que c'est forcément l'un ou l'autre? Je ne suis pas sûr que ce soit forcément l'un ou l'autre.
Regarde, t'as Di Maria, t'as Icardi, t'as Mbappé, tu mets où Cavani?
Et il y a Neymar aussi.
C'est ça la question.
Neymar,
pour l'instant, on ne sait pas s'il va se reblesser. Mais on les met où, du coup,
Il revient mi-novembre. David Aiello, Yahoo Sport.
Justement, juste sur ce qui a été un petit peu évoqué sur l'institution, etc., le joueur Cavani. Bon, il faut peut-être pas non plus, là je parle vraiment du côté du club, l'enterrer comme ça et lui réserver une fin de saison sur le banc, parce que bon,
c'est quand même
un joueur historique. Voilà, quand on a un grand club aussi, je dis pas qu'il faut le privilégier, mais de là
le zapper complètement, qui se font pas, tout à fait.
Je pense qu'il mérite un petit peu de respect.
Mais je vais un Baptiste peu plus loin, au-delà de l'institution, c'est même au-delà des médias, les supporters. On a l'impression que Cavani, c'est terminé. C'est frigo.
Pas pour les supporters.
Les supporters un peu moins, mais côté médias.
Vous aimez bien le frigo.
Non, mais. J'adore ça, c'est un peu un problème d'ailleurs. Mais bref, mais ce que je veux dire, c'est que Cavani, une fois de retour, il va rendre encore d'énormes services au Paris Saint-Germain. Après, jouer comme ça à deux, j'y crois pas beaucoup. En point de temps, il y a des solutions offensives, mais Edinson Cavani, il faut compter sur lui jusqu'à la fin de saison.
Ah oui.
Alors on va faire un petit tour de table. Allez-y, David.
Oui, votre téléphone portable, je crois qu'il a sonné.
Non, c'était pas le mien, c'est celui de Christian Olivier, notre chef des sports qui rentre. Non, mais c'est bon. David Aiello, donc un petit pronostic. Marseille, Paris Saint-Germain, Marseille. Allez-y.
Non, moi, je vois pas un gros écart. Je sais pas. Justement, je suis pas sûr que Paris va élever son niveau au niveau de ce qui a été fait en Ligue des Champions sur les gros matchs, ou en tout cas pas sur 90 minutes. Donc, du coup, je veux dire un petit 2-0.
2-0. Jean-Philippe Gouron.
Je pense que Paris va écraser Marseille 2-1.
Cindy Colmenares.
3-1 pour Paris.
3-1 pour Paris.
Mbappé en feu, je vois bien 4-0.
4-0, c'est sympa pour Mandanda. Moi, je joue un match nul.
Il peut faire un bon match, mais 4-0.
Ça, comme cote, ça se joue.
Match nul.
Oui, match nul.
Voilà, lisez votre livret A dessus, là, sur le match nul, ça vaut le coup.
Le livret, c'est quoi, ça? C'est pour les plus vieux, ça. Désolé, mais j'étais pas là. Christian Olivier, bonjour.
Messieurs, bonjour, bonsoir.
Ça va?
Moyennement. Je suis un peu de mauvaise humeur, si vous voulez, parce que...
Ça, c'est embêtant.
Vous en êtes encore en 2019 à parler de classico entre Paris Saint-Germain et Marseille.
Quoi,
Alors, moi, le classico, je le connais en Amérique du Sud.
Ou en Espagne, entre Barcelone.
Je le connais en Espagne, voire en Italie, la Juve et le Milan. Et en 2019, Denis Balbir en est dans son sommaire à parler de Classico.
Ouais. Classique alors.
Je dois vous dire, Denis, que je suis un peu
un sommaire qu'on avait évoqué ensemble, non peut-être.
Non, mais pas non. Classico.
Je ne sais pas.
Le classique.
Attendez, vous voulez que je montre, faut que je vous lise.
Non, vous montrer. Enfin, c'est un règlement de compte.
Si nous parlions du Classico,
on va se régaler ce soir, chers amis. On va se régaler parce qu'on va parler de ce classique, effectivement, avec Fabrice Fiorès. Ce sera le 5-7 du multiplex à 22h05. Il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué à Marseille, ça ne s'est pas forcément
bien passé, mais
vraiment, c'est un entretien très sympa à écouter au micro de Willy Maisonnas, avec beaucoup d'infos, d'anecdotes et de sourires également. Génial. Et puis bien sûr, les matchs du jour, Lyon-Metz, Reims-Nîmes, Montpellier-Angers, Brest-Dijon, Strasbourg-Nice, avec toute la joyeuse équipe, bien évidemment, Philippe Sanfourche, Giovanni Castaldi et Quentin Vasselin et tous les auditeurs sur les réseaux sociaux.
On va rappeler que Lille a battu Bordeaux 3-0 et qu'en Ligue 2, 3 est allé gagner à Lorient. Merci Christian, on se retrouve évidemment.